passionnés par Christ. C'est un peu l'heure difficile, là, hein? Vous êtes en train de digérer. Là, c'est d'habitude les heures où c'est la grande victoire quand l'orateur et le public terminent ensemble. C'est les moments où, quand j'étais à l'école, je me disais souvent, l'école, c'est super, s'il n'y avait pas le gars devant qui parle. Alors, j'espère ne pas vous lasser. Le témoignage, ce que vous continuez passionné pour Christ et par Christ. Le sujet maintenant, ça serait poursuivre le pèlerinage. Ou comment bien finir? Comment bien finir? Parce qu'il y a quantité de choses dans la vie qu'on commence bien. Il n'y a pas toutes qu'on finit bien. Et ça fait un peu peur quelquefois quand on rentre dans la vie spirituelle de disciple et qu'on a tout le feu au début, on se dit « Waouh, comment est-ce que je peux maintenir quelque chose pour qu'à la fin, je ne sois pas un vieux rasoir comme ça qui freine tout, qui, tu vois le truc ?» Donc, comment est-ce que je peux rester quelqu'un qui motive et qui continue? Dans Actes 14, versets 21 et 22, je vous lis, Actes des Apôtres 14, « Après avoir évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et Antioche. Ils fortifiaient l'esprit des disciples, les encourageant à persévérer dans la foi, et disaient, « C'est à travers de beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » C'est un peu intéressant, je trouve, comment il les fortifiait. On attendrait plutôt qu'il les fortifiait en disant « C'est facile, continuez, c'est vraiment facile, allez-y, ça va marcher, il n'y a pas de souci. » Non. Quoi? C'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. J'aime beaucoup la Bible parce qu'il n'y a pas d'illusion. Il y a vraiment la réalité qui est écrite. Et je pense souvent à ces moments d'évangélisation, ou quand je suis appelé aussi pour des messages d'évangélisation, où en fin de compte, je montre un prix très élevé pour qu'on puisse réaliser qu'on n'y arrivera pas et qu'il faut l'aide de Dieu. Que la vie du disciple de Jésus est une vie où c'est dans l'instant la dépendance d'avec lui qui va rester la clé. Parce que nul de nous ne sait ce qui arrive sur le chemin. Quelles sont les difficultés? Quelle est l'emprise? Quelle est la fatigue? Quelles sont les maladies? Quelles sont les chutes? Quels sont les travers de la vie qui sont là? Et c'est tellement bon de savoir que pourtant, dans l'histoire de l'Église et dans la Bible, il y a des gens qui ont bien fini. Dans les lettres aux Églises, dans Apocalypse, les sept lettres aux Églises, dans chaque lettre revient un même refrain, avec une autre récompense, mais un même refrain, à celui qui vaincra, je donnerai. Ça veut dire déjà que il s'agit d'une vie avec des batailles. Parce que vaincre, ça veut dire que quelque part il y a une résistance, que quelque part il y a une opposition. Vaincre, c'est quelque part un engagement de la volonté, une décision à prendre, une fermeté par rapport à quelque chose. Mais à celui qui vaincra, je donnerai un cadeau, dit Jésus, je donnerai. Alors bien sûr, ce qui m'a intéressé, c'est de savoir, est-ce que nous trouvons dans l'histoire de l'Église, parmi tous ceux qui ont marqué et que Dieu a utilisé pour communiquer l'Évangile, pour vivre au travers de l'amour et pour vivre dans ce monde avec des objectifs divins, quels étaient un peu les dénominateurs communs dans la vie de ces gens-là? Parce que ça m'intéresse. Si d'autres sont arrivés au bout, ça doit nous intéresser comment y arriver aussi. Parce que c'était aussi des humains, ce n'était pas des surhommes, c'était des femmes et des hommes qui ont marqué leur temps en ayant une certaine attitude. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, la dernière lettre de l'apôtre Paul avant d'être décapité et à cause de sa foi, dans sa dernière lettre, il écrit au chapitre 4, au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Il a gardé la confiance en Dieu, extraordinaire. Il a gardé la confiance. Ça veut dire bien qu'il y a quelque chose à garder, à maintenir dans la persévérance. Et la confiance en Dieu est difficile à maintenir si nous ne sommes pas entièrement convaincus de la souveraineté de Dieu. Nous avons besoin d'être sûrs, mais vraiment sûrs que c'est lui qui ne perdra jamais le contrôle. Et alors nous pouvons garder et maintenir et renouveler la confiance en lui. Tu connais les épreuves, tu connais des maladies, tu connais des tuiles, des imprévus. Et chaque fois, je le connais dans ma vie, chaque fois, il y a un moment à surmonter pour retrouver la totale confiance en Dieu. Il y a le moment où d'un coup, ton intelligence, et mon peu que j'ai aussi, que l'intelligence veut reprendre le dessus pour mieux analyser, argumenter, expliquer. Et puis, je dois de temps en temps, de nouveau, faire taire mon peu d'intelligence en me jetant dans les bras de Dieu en disant, « Papa, j'ai confiance que tu me tiens. J'ai confiance que tu n'as pas perdu le contrôle. Je sais que tu as choisi le chemin qui va jusqu'au ciel chez toi et que c'est toi qui me tiens dans ce chemin-là. » Mon père était déjà missionnaire, on est tous tombés dedans comme ça, un après l'autre. Jean-Jacques, vous le connaissez, mon grand frère, je pense, il y en a beaucoup qui le connaissent, Jean-Jacques et Lydie. C'est mon grand frère. Hein. Ouais. Et moi, je suis le plus jeune de la famille, ça ne se remarque pas, mais bon, c'est comme ça. Et papa, avant de partir au ciel, il était en maison de retraite et tous les matins, il organisait une réunion de prière dans la maison de retraite où il cherchait les gens pour prier parce qu'il savait que ses fistons, ils sont en train d'être sur le terrain, Jean-Jacques un endroit, Daniel un autre, et qu'ils avaient besoin de la prière, donc il rameutait les gens pour les réunions de prière. Et tous les jours, il copiait des textes de la Bible. Et quand il avait 91 ans, il continuait à copier, et puis d'un coup, d'une page à l'autre, l'écriture était plus petite. Il y avait moins de force. Et il a terminé sur 2 Timothée 4, 7. Quand il a mis ce texte que je viens de lire, quand il a mis à ce moment-là sur son bureau, il avait tapé avant, avec sa machine à écrire, tous les chants qu'il fallait chanter à son enterrement. Il avait mis un post-it pour dire « Jean-Jacques, il prêche sur tel texte et Daniel prêche sur tel texte ». Et puis nous, quand on est arrivé, il était auprès du Seigneur, son corps était là dans le lit, il était parti, et tout était organisé. Il avait trouvé là où il y a les cercueils les moins chers, ça c'est important, pour ne perdre pas d'argent, hein, parce qu'on ne va quand même pas investir dans le sous-sol inutilement. Hein, okay. Et donc, il avait noté tout ça, tout était noté. Et lors de l'enterrement, Jean-Jacques et moi, on a dit, ne pensez pas qu'on a ajouté quelque chose. On vous dit, on fait juste ce que papa a dit là. Hein? On est obéissant, on fait ce que papa a dit. Mais il est parti avec, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Et je sais que ce n'était pas la force de papa, mais la force du Seigneur Jésus. La force du Seigneur Jésus. Il y a donc quelque chose à garder, à maintenir. Mais pour garder quelque chose, il faut apprendre la persévérance. Et la persévérance, c'est souvent répéter les mêmes choses. Et ça, c'est difficile aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand c'est un peu pas intéressant, tu zappes. hein, tu zappes sur autre chose. Tu vas quand même pas rester dans un truc pas intéressant. Tu vas de suite aller autre part. Quand tu as un travail que tu trouves maintenant, c'est pénible, quoi. Tu zappes sur autre chose, tu cherches autre chose. Parce que nous sommes rentrés très souvent dans une attitude d'humaniste, où le principal, c'est le bien-être de l'être humain. On devient même un peu hédoniste quelquefois, où on tourne autour de son bonheur personnel. C'est très difficile dans les églises, dans certaines églises, où les gens cherchent leur bonheur personnel. C'est dur, ça. Parce qu'il faut de suite leur dire, tu ne vas pas le trouver. Hein. Foutu, hein. T'es mort, là. Parce que si tu contrôles, si tu es dans le bonheur, pendant ce temps, tu contrôles, tu es concentré sur ta propre vie. Si tu vis pour les autres, tu réalises même pas que tu as le bonheur, parce que tu t'es oublié, et les autres te disent heureux. Parce que nulle part l'Écriture nous dit qu'il faut chercher notre propre bonheur. C'est une invention humaine, ça, c'est pas du tout de l'Écriture. On a à chercher la proximité de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu, et les conséquences qui en suivent, c'est en réalité ce service, comme je disais ce matin, ce service que aimer Jésus, c'est s'occuper des autres. Et en t'occupant des autres, les gens te disent heureux. Et toi, tu es heureux. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit l'Écriture. Ce qu'il faut pour bien finir. Alors la persévérance, ça ne s'apprend pas très vite, hein, je ne sais pas si vous savez. Mais la persévérance, c'est de l'usure en même temps. Alors, je ne vous parle pas seulement de ma famille, hein, parce qu'on est des humains mortels et puis pêcheurs comme tous les autres, mais j'ai quand même un truc qui m'a aidé. Moi, j'ai un certificat. Hein. Je ne sais pas si tu vois. Hein. Mais ce n'est pas le mien. Ce n'est pas mon certificat. J'aime bien le montrer, mais ce n'est pas le mien. C'est le certificat de mon grand-père. Waouh, truc des ancêtres, hein. Mais mon grand-père, tiens-toi bien, il était fidèle dans la même entreprise pendant 60 ans. C'est pas mal, hein? Bon, c'est vrai qu'il n'a pas longtemps vécu après la retraite, ça se comprend, hein? Quand t'étais, hein, on est d'accord, donc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les caisses de retraite, au cas où, hein? Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi ça m'a aidé? Je me suis dit, j'ai un grand-père qui a travaillé dans le textile comme ouvrier vérificateur 60 années à faire les mêmes gestes. Imagine le truc. Et donc, il y avait une endurance, une persévérance. Et en plus, il était connu comme quelqu'un de satisfait. Alors ça, c'est quand même de trop, quoi. Là, ça dépasse un peu les bornes. Mais imagine, dans notre société du jetable, de l'envie, tu as à exercer quelque chose qui doit persévérer jusqu'au dernier souffle. Imagine. Ça, c'est la vie de disciple. Garder la foi, avancer, revenir au Seigneur, revenir quand on a péché, de nouveau remercier le Seigneur et entrer dans une vie de reconnaissance. Je fais partie des gilets jaunes. Non, non, ceux qui roulent en vélo, hein. Vous ne... non, mais je précise quand même, hein. Je veux quand même préciser, c'est ceux qui roulent en vélo, hein. Mais dans mon cœur, je fais partie quelquefois aussi des autres gilets jaunes, de manque de reconnaissance. Et je comprends que c'est difficile à accepter les injustices, mais elles sont là sur terre. Et ceux qui ont persévéré, ce sont ceux qui ont aussi poursuivi dans la foi, malgré les injustices. Malgré les injustices. Alors, quels sont les points précis qu'on peut relever dans la vie de ceux qui ont maintenu le cap et qui sont arrivés jusqu'au bout. D'abord, ce que j'ai déjà dit, l'intimité avec Jésus. Et cette intimité, cette relation avec lui, cette prière, cette spontanéité avec le Seigneur Jésus, elle est aussi marquée par la réflexion. Ce n'est pas que sentimental. Hein. Ce n'est pas que simplement quand j'ai envie, maintenant je suis content, je parle avec le Seigneur. Le sentiment, c'est un wagon, il suit tout simplement, et très souvent devant, il y a la locomotive de la volonté, où je décide. J'aime beaucoup certains psaumes où tu as l'impression que le psalmiste, il se commande à lui-même, hein, où il dit, il se prend au colbac, il dit « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est comme, tu vois, moi je dois quelquefois aussi le faire comme ça. Parce que je ne remercie pas comme ça, évidemment. Ce n'est pas un réflexe qui est tout le temps là. Et il faut qu'on apprenne à se parler ce qu'en fin de compte, nous avons à faire sur le plan de notre volonté pour marcher avec le Seigneur. Il y a quantité de choses où il faut se reprendre soi-même et se dire « maintenant ». Et la parole de Dieu nous aide tellement parce qu'elle donne des points précis où nous avons à obéir. Je reviens à Luc 14, que je vous ai lu, le verset 26 tout à l'heure. Que si quelqu'un vient à Jésus, il faut qu'on le préfère au-dessus de tout, et que si on marche avec lui, on porte sa croix, on porte le rejet quand on suit le Seigneur Jésus. Et puis il continue en disant, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Il y a donc ici le premier verbe pour bâtir la tour, après c'est « Il s'assied » pour calculer. Ça c'est ce que tu fais quand tu regardes ton agenda. Hein? Tu t'assieds et tu calcules avec ton objectif spirituel où est-ce que je mets la réunion de prière. Où est-ce que je mets mon temps pour être seul avec Dieu? Où est-ce que je mets mon temps de lecture de la Bible? Et puis, tu t'assieds aussi pour calculer pour cette tour que tu veux construire, en mettant peut-être aussi où est-ce que je mets le moment où je vais visiter telle et telle personne malade ou tel et tel ami qui a des problèmes pour le moment pour être avec lui. Tu t'assieds. La vie spirituelle commence par l'arrêt. Le philosophe Alain Finkielkraut a dit dans un de ses bouquins qu'il a écrit dernièrement, un essai sur le plan philosophique, il a dit « La grande révolution de notre 21e siècle, ce serait d'arrêter. » Imagine sa pensée. Imagine qu'on arrêterait. Ça peut nous arriver, hein, il suffit d'un boom et que toute l'électricité tombe, mais tu trouves plus rien dans ta banque, tu supermarché n'ouvre plus ses portes, enfin, tout serait arrêté. Hein? La révolution, ça serait d'arrêter. Et il le dit, lui, en tant que philosophe, pour permettre la réflexion. Parce qu'il y voit tout simplement une culture qui avance sans plus réfléchir aux conséquences. Arrêter. Jésus disait, si tu veux bâtir une tour, tu t'assieds, tu calcules. Mais il continue avec l'autre image où il dit, « Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner ce qu'il peut avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. » De nouveau, s'asseoir, temps de guerre. Je suis tellement reconnaissant pour ce que Jésus a dit. Parce que la vie d'Église, c'est construire une tour en temps de guerre. Construire un refuge pour des âmes en tant que guerre spirituelle, au milieu d'une guerre spirituelle. L'ennemi fait tout pour détruire, et toi et moi, nous avons reçu les armes spirituelles. Éphésiens 6, verset 10 et suivant. La foi. Toutes les armes spirituelles sont là. Mais nous sommes en tant que guerre spirituelle. C'est pour ça que les choses n'avancent pas simplement par la réflexion. On peut avoir des très bonnes idées. Aussi, quand tu fais ton programme, tu peux avoir des bonnes idées de faire telle et telle chose dans une visite pour aider d'autres. Et quand les heures arrivent où, mais il y a plein d'imprévus, tu ne peux pas le faire et ça tombe à l'eau, etc. et tout est barré. Parce qu'il y a une guerre spirituelle. Il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu puisses exprimer ton amour et ton service auprès des autres. Ceux qui ont maintenu jusqu'au bout, ce sont ceux aussi qui ont compris qu'ils sont en pleine guerre et qui l'ont accepté, qui ont accepté de prendre les armes spirituelles, qui ont accepté de prier les uns avec les autres, qui ont accepté de compter sur Dieu lorsque les choses ne sont plus du tout logiques, qui ont accepté d'avancer. Je remercie Walter pour son témoignage de tout à l'heure, ce témoignage formidable d'avoir, dans ce barrage de l'existence, accepté que c'est la main de Dieu qui a gardé le contrôle. Quel privilège d'avoir, de pouvoir entrer dans une telle attitude, alors qu'il semble que tout est cassé, et de pouvoir dire non, c'est le plan de Dieu, on continue sous une autre forme. Donc, ceux qui ont persévéré, ce qu'on relève et qui vont jusqu'au bout, c'est qu'ils maintiennent simplement la discipline dans les petites choses. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, quand l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, il leur parle du sport, hein? Et il leur dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ?» Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure, je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Un homme de volonté, ce Paul, qui fait réellement envie et qui nous montre un chemin pour atteindre l'objectif. Les jeunes, faites du sport, hein, du sport d'endurance. J'ai toujours fait avec les jeunes et avec les stagiaires du sport d'endurance. Il faut endurer, il faut persévérer, parce que tout ce sport, le sport d'endurance pour votre corps, est un exercice pour pouvoir aussi endurer dans d'autres circonstances. Notre volonté est un muscle, et tout muscle qui n'est pas utilisé s'atrophie. Ce muscle doit être utilisé, la volonté. Et la volonté, chez moi, elle s'engage le mieux dans tous les travaux que je n'aime pas faire. Dans les travaux que j'aime faire, il ne faut pas beaucoup de volonté. Mais peut-être, toi aussi, tu as une liste à la maison de trucs qui traînent, hein, et qu'il faudrait quand même une fois faire. Et qui ne se font pas tout seuls, enfin, je ne sais pas si tu es aussi dans cette galère. Et en fin de compte, dans la liste, il y a certaines choses que tu n'aimes pas faire, comme moi. Mais se dire, maintenant je l'ai fait, et y aller, c'est l'entraînement de la volonté. C'est pour ça que le chemin de la facilité, ce n'est pas le chemin de l'entraînement d'un caractère volontaire. C'est d'accepter les obstacles et de les franchir qui forment une femme et un homme de Dieu. Ça va encore ou je suis trop... Non ? Vous tenez le choc ? Donc vous avez le droit de dormir, mais pas ronfler, s'il vous plaît. Hein ? Soyez sympa, quoi. Mais dormir, c'est toujours autorisé. Hein ? À la sortie d'un culte à Genève, il y a un très gentil papy qui m'a, à la sortie, m'a dit, mais excusez-moi, parce que vous avez certainement remarqué que j'ai dormi pendant la prédication. Et je lui ai dit, mais t'es super. Moi, j'ai prêché sur la paix, et toi, tu l'as directement appliqué. C'est génial, hein, quand les gens appliquent tellement vite. C'est génial, hein, ouais. Comme quoi. Un autre point de ceux qui ont persévéré et enduré, c'est qu'ils avaient une perspective biblique des circonstances de la vie. Dans Hébreux 12, versets 10 et 11, il est parlé que nos pères nous corrigeaient comme il leur semblait bon, n'est-ce pas ? Que la correction semble dure dès le départ, un sujet de tristesse, mais que la correction produit plus tard chez ceux qui en ont exercé un fruit porteur de paix et de justice. Dieu va corriger. Dieu va corriger pourquoi ? Mais exactement pareil comme si tes parents suivent l'éducation biblique, c'est comme avec tes parents, ils vont te corriger lorsque, pour l'obéissance, les oreilles ne suffisent plus. Moi, j'ai souvent dû faire des massages postérieurs à mes enfants, je n'étais pourtant pas kinésithérapeute, mais tout simplement parce que j'ai découvert que quand ils n'obéissent plus, je pense que l'âme se trouve ici, dans le derrière. Et quand on tape alors là, il y a quelque chose qui se déclenche dans le fonctionnement humain et que d'un coup, on peut de nouveau avancer. Hein. Donc, en fin de compte, c'est un bien qu'on ressent peut-être pas tellement bien sur le moment, mais qui, à force d'être exercé, permet d'entrer dans une obéissance, dans une obéissance. Et notre Père spirituel, Dieu lui-même, a aussi ce processus que lorsque l'obéissance ne suit pas, il a d'autres moyens pour que nous puissions comprendre. Nous avons besoin de correction. C'est pas le style punition, c'est correction pour amélioration, pour progrès spirituel. Parce que quelquefois, il y a des croyants qui, dans la relation d'aide, disent « je ne comprends pas, Dieu ne m'aime pas, parce que etc., etc., sinon ça n'ira pas si mal ». Si, attends, il essaye de te faire comprendre que tu peux obéir et le suivre et lui faire encore plus confiance. Tu peux apprendre à marcher avec lui et il veut que tu l'apprennes. Donc, ils ont eu une perspective biblique des circonstances de la vie. Et si tu te rappelles 2 Corinthiens, les premiers chapitres, c'est tellement beau, où l'apôtre Paul, il parle en fin de compte de ses détresses qu'il avait vécues et de la consolation qu'il a reçue. Et il précise, ça je l'ai vécu afin de pouvoir consoler ceux qui passent par les mêmes détresses. Tu vois le truc ? C'est super, hein ? Les détresses que tu traverses ne sont pas inutiles. Elles sont une préparation pour quelque chose qui est devant toi que tu ne sais pas encore, où tu vas être utile pour aider d'autres à traverser leur détresse. Le plan de Dieu est merveilleux. Jamais compris pour mon corps avec certaines maladies, mais après un certain nombre de maladies et de choses passées, j'ai très bien réalisé combien les visites à l'hôpital que je faisais ont changé. Mon approche a complètement changé. Mais il fallait d'abord traverser par quelque chose pour qu'il y ait une compréhension pour un malade. Sinon, ça reste une compréhension intellectuelle, théorique. Et Dieu avait prévu sur mon chemin certaines choses pour formation, par amour. Et je devais apprendre à accepter que c'est une perspective biblique que Dieu a dans ces circonstances pour me former et pour transporter l'Évangile pour d'autres vies. Et puis, je peux encore avant qu'on coupe ? Oui, ça va ? 4e point, ceux qui ont persévéré jusqu'au bout, et avec enthousiasme, avec passion, pas simplement jusqu'au bout, ils avaient un esprit désireux d'apprendre. Tu as déjà rencontré des gens que quand tu parles avec eux, ils savent tout, quoi. C'est cool, hein ? Tu parles d'un parapluie, ils savent comment c'est fait. Tu parles des astres, tu dis, oh oui, j'ai fait de l'astronomie. Tu parles de, oh là là. Ouais. C'est pas cool, hein. Ça, c'est pareil dans la... Tu sais, tu es ensemble, 2-3 chrétiens qui se retrouvent ensemble avant la réunion, et puis il y en a un qui dit un peu sa misère de sa marche avec le Seigneur Jésus. Et de suite, un autre, il dit, « Oh, il n'y a pas de problème, tu sais, dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il se dit que tu as une nouvelle créature, machin, t'as qu'à te reprendre tout le temps. » Et t'as envie de lui dire ta connaissance biblique, mets-la dans ta poche et tais-toi. Hein? Ça va. Et combien c'est bon quand on se retrouve entre faibles qui ont besoin ensemble de parler avec Jésus. Ceux qui ont tenu jusqu'au bout, c'était des faibles qui avaient besoin les uns des autres et qui parlaient avec Dieu. C'était ceux qui avaient besoin des autres. C'est ceux qui, dans les plus différents domaines, gardaient toujours l'ouverture. J'ai quelque chose à apprendre. Ursula et moi, Ursula, ce n'est pas le nom de... Vous savez certainement qui c'est, hein, Ursula. Oui, OK. Ursula et moi, donc c'est ma femme, bien sûr. Ursula et moi, parce qu'on a un ministère ensemble depuis je ne sais plus combien de décennies, mais bon, ça, ce n'est pas grave. Mais Ursula et moi, on a eu beaucoup de stagiaires, filles et garçons. Et toujours à nouveau, on était émerveillés que de chaque jeune, on a quelque chose à apprendre. Je trouve génial. Tu rencontres un humain de n'importe quel âge, tu as quelque chose à apprendre. Et en fin de compte, le relationnel et former d'autres et accompagner d'autres transforme la vision sur sa propre vie, permet des corrections. Continuer à penser certaines choses, retrouver mieux les limites personnelles, c'est tellement bon. De savoir, de connaître un peu ses limites, c'est tellement bon. Donc, un esprit désireux d'apprendre. Et pour être désireux d'apprendre, tu sais comme moi qu'il faut demander au Seigneur de nous aider à rester humbles. Être humble, ce n'est pas se pousser vers en bas, hein. Ce n'est pas ça, humble. Hein? C'est simplement refuser d'être poussé vers en haut. Être humble, c'est en fin de compte la conclusion qu'on fait quand on a découvert qui on est. Parce que quand on a découvert qui on est, on sait exactement qu'on est une créature rachetée et qu'on n'a rien de grand à présenter. Mais on est tellement content d'être enfant de Dieu et de rester dans cette attitude. Donc, ils ont été humbles. Et puis, le cinquième point, ceux qui ont bien terminé, ils avaient une sensibilité particulière pour leur fardeau personnel. Je m'explique. Tu as peut-être le fardeau de la prière. Maintiens-le. Cultive-le. Tu as peut-être le fardeau individuel de visiter des gens. Maintiens-le, cultive-le. Tu as peut-être le fardeau de téléphoner dès qu'il y a des gens de l'église où on sait maintenant ils sont malades ou maintenant ça ne va pas trop. Tu as le fardeau de leur téléphoner pour les encourager. Maintiens-le. C'est maintenir un fardeau personnel. Tu l'as certainement trouvé en lisant régulièrement la Bible, tu as trouvé quelque chose où il y a ton fardeau personnel. Cultive-le, maintiens-le. Ça peut être humainement une toute petite chose, hein, mais qui fait progresser le royaume de Dieu. Maintiens-le. Ils ont maintenu dans un objectif personnel ceux qui ont persévéré. Alors, certains, Dieu leur a donné un objectif personnel immense, hein, s'occuper de mille orphelins. Bon, vous savez à qui je pense, Tintendorf et d'autres. Hein, s'occuper de grands projets, et ils l'ont maintenu, parce que Dieu leur a donné ce fardeau de ce grand projet. Mais ne cherche pas les grands projets, il y a un psaume dans lequel c'est très bien marqué. Maintiens-toi à des petits projets que tu appliques. Si Dieu a un grand projet pour toi, il le précisera. Mais Dieu commence toujours son œuvre dans des petites choses pour les faire grandir. on le retrouve toujours à nouveau, ce principe.